Une heure de culture, d'actu, dans la bonne humeur, sur Transistor.
C'est quand ?
C'est en ce moment.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième et dernier direct de l'année. Un direct nocturne de 18h jusqu'à 21h15. Vous retrouverez Transhistorien, la chronique ferroviaire de Clément, Popsy Turvey, la nouvelle émission de géopolitique culturelle, D'étoiles plein les yeux, votre émission de cinéma, une nouvelle émission de sociologie, Socioscopie, le journal des bonnes nouvelles, puis Maëlys vous parlera de généalogie avant de retrouver le journal radiophonique amplifié comme d'habitude. Mais tout de suite, place à En ce moment.
Mais tout de suite, il est 18h01 et c'est l'heure de faire le point sur l'actualité avec le journal.
Et pour commencer ce journal, un point politique avec les législatives. Le mouvement politique d'Emmanuel Macron, rebaptisé à l'occasion des élections législatives des 11 et 18 juin, La République En Marche, a annoncé aujourd'hui la liste de ses candidats aux législatives. 428 noms ont été annoncés aujourd'hui, dont une vingtaine de membres du Parti Socialiste. Manuel Valls n'a pas été investi par La République En Marche, mais le mouvement ne présentera pas de candidat face à lui dans sa circonscription de l'Essonne. Le reste des noms devrait être dévoilé mercredi prochain. En Marche se laisse le temps de parfaire sa liste de candidats. La date limite des candidatures est fixée au 19 mai et selon le parti politique, ce retard est dû à l'afflux de candidatures depuis la victoire d'Emmanuel Macron le 7 mai dernier. Le but affiché par En Marche serait d'arriver à accueillir dans ses rangs des personnalités politiques issues de la droite et notamment des proches de Bruno Le Maire et d'Alain Juppé. 20 à 30 députés de la droite modérée pourraient basculer d'ici la semaine prochaine. Jean-Paul Delevoye, président de la Commission nationale d'investiture, a assuré qu'au moins 50% des candidats de La République En Marche seraient issus de la société civile. La guerre des roses au Parti Socialiste. Le programme du Parti Socialiste a en effet gommé un certain nombre de propositions du candidat Benoît Hamon, notamment le très connu revenu universel. Ce programme pour les élections législatives devient entre guillemets Macron compatible, comme le soulignent les décodeurs du Monde, en reprenant certaines propositions du candidat d'En Marche, comme la loi sur la moralisation de la vie publique, son programme pour l'éducation, l'extension de l'assurance chômage pour tous et la revalorisation de la prime d'activité à 50%. Ce changement de programme intervient alors que Benoît Hamon déclarait hier qu'il comptait fonder un nouveau mouvement politique sans préciser s'il s'agissait d'un parti, après les législatives le 1er juillet. Hier encore, Martine Aubry, maire de Lille, Anne Hidalgo, maire de Paris et Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux, ont lancé leur propre mouvement baptisé Dès Demain, mouvement qui a pour ambition de, je cite, « refonder la vie politique française ». Jean-Luc Mélenchon fait polémique. Le candidat malheureux de la France insoumise a fait savoir qu'il allait être candidat dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône à Marseille. Circonscription briguée par le député PS sortant Patrick Mennucci. Ce dernier a vivement critiqué Jean-Luc Mélenchon, le qualifiant de, je cite, « nomade électoral ». Il a d'ailleurs fait part de son étonnement quant au choix de la circonscription qui serait la, je cite, « la moins Front National de toute la région PACA », ce qui invaliderait la thèse d'une candidature de combat. Le candidat de la France Insoumise était arrivé en tête à Marseille avec 24,82% des voix. À l'extrême droite maintenant, Emmanuelle Ménard sera candidate dans la 6e circonscription de l'Hérault, où se situe la ville de Béziers, dirigée par son mari Robert Ménard. La directrice de publication du site Boulevard Voltaire se dit soutenue par le Front National, le Mouvement pour la France et le Centre National des Indépendants et Paysans. C'est tout pour la politique et les législatives, passons maintenant aux questions de société. Bientôt la fin de la réforme des rythmes scolaires, lancée en 2013 par Vincent Peillon, alors ministre de l'Éducation nationale. Cette réforme sera allégée par décret dès cet été par le nouveau président Emmanuel Macron. Chaque commune pourra décider de l'organisation qu'elle souhaite adopter, 4 jours ou 4 jours et demi. Le fonds d'aide aux activités périscolaires sera réservé, quant à lui, aux communes les plus pauvres. On n'en a pas fini avec l'homophobie en France. Un rapport de SOS Homophobie révèle une hausse de 20% des violences et des insultes LGBT-phobes signalées. Les personnes transsexuelles sont les plus touchées par ces discriminations, avec une hausse des signalements de 76%. Les signalements de biphobie ont doublé quant à eux. C'est notamment sur Internet que les insultes flambent sous couvert d'anonymat, et l'association pointe notamment le manque criant d'encadrement législatif. Le délai de prescription sur le net n'est que de 3 mois. L'école et le travail demeurent les principaux lieux des violences et des insultes envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans. Et nous passons tout de suite à l'international avec Maëlys.
Merci Mathias. Votre actualité internationale maintenant. Nous prenons d'abord la direction des États-Unis où Donald Trump est largement chahuté actuellement dans ce que certains prédisent comme un futur Watergate. Le président des États-Unis, Donald Trump, reçoit actuellement une volée de bois vert et essuie les critiques de toutes parts suite à sa décision de limoger James Comey, le directeur de la police fédérale, le fameux FBI des États-Unis, donc mercredi 10 mai, via l'envoi d'une lettre de 5 lignes lui signifiant qu'il avait failli à sa mission. La polémique enfle depuis 2 jours. En effet, si les démocrates dénoncent une décision arbitraire et antidémocratique, Trump est également critiqué par son camp républicain, certains hésitant à suivre le président dans ce qui apparaît comme une affaire motivée par des raisons questionnables. Ça, au point que certains commentateurs, en fait, fassent le rapprochement avec le scandale du Watergate. En effet, parmi les dossiers en charge du FBI, l'enquête sur l'usage de sa messagerie privée par Hillary Clinton pendant ses années à la tête du département d'État de 2009 à 2013 avait débouché sur une autre enquête concernant le rôle de la Russie dans le piratage du site du Parti démocrate et la divulgation de documents internes à l'équipe Clinton peu de temps avant le scrutin, divulgation qui avait bénéficié aux candidats républicains. Mauvais calendrier pour Donald Trump, cependant, qui recevait hier même, avec le secrétaire d'État Rex Tillerson, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, une première depuis août 2013 et qui s'inscrit dans une stratégie de rapprochement revendiquée par un Trump de plus en plus contesté par l'administration américaine. Direction l'Allemagne maintenant, pour les suites d'un autre scandale, le Dieselgate de Volkswagen, cette fois qui connaît un nouveau rebondissement. Volkswagen a en effet refusé de publier l'enquête interne concernant ses moteurs diesel truqués pour convenir aux normes environnementales. La direction du constructeur allemand a annoncé hier à ses actionnaires assemblés à Hanovre que le groupe ne publiera pas plus d'informations que celles contenues dans le cadre de l'enquête du ministère de la Justice américain. En cause, la peur que cela nuise davantage à l'entreprise qui a déjà perdu 22,4 milliards de dollars dans l'affaire. La décision de la direction est extrêmement mal perçue par les actionnaires propriétaires de l'entreprise, auxquels le groupe, bien que le groupe ait annoncé qu'il leur verserait une dividende exceptionnelle de 2 euros par action, soit un montant 20 fois supérieur à l'année dernière en compensation. Proche-Orient maintenant pour finir, et plus précisément Israël, où le Premier ministre Netanyahou a décidé de stopper la chaîne de télé et la radio d'État sans préavis. Elles ont définitivement cessé d'émettre mardi soir, ne diffusant plus que de vieux clips et de la musique, entrecoupés par de petits bulletins d'information à chaque top horaire. Officiellement stoppée pour être réformée, la radio-télévision publique israélienne est néanmoins considérée comme trop critique par Benjamin Netanyahou et ses ministres, qui la trouvent, je cite, « persifleuse, incisive et indocile », disent les syndicats de journalistes. À la place de l'institution, une nouvelle structure est censée prendre l'antenne à partir de lundi sans toutefois diffuser d'informations qui, elles, seront traitées par un organisme au contour flou où le gouvernement sera représenté. Cette nouvelle configuration inquiète également le président de l'État hébreu, Reuven Rivlin, et elle doit encore être approuvée par le Parlement israélien. C'est fini pour votre actualité internationale.
Merci Maëlys pour ce retour sur l'actualité internationale aux quatre coins du monde. Restons dans l'actualité, plus politique et corrosive cette fois, avec Pierre et son billet d'humeur politique. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathias.
Française, français.
Le débat d'aujourd'hui portera sur la politique. La politique, comment, pourquoi et quand.
Moi, président de la République.
Au revoir.
que d'actualité politique cette semaine. Bien sûr, la présidentielle française, mais aussi les législatives qui se profilent. Beaucoup de choses à dire dans tous les sens, mais une chose est sûre, un phénomène global se profile. La recomposition totale du spectre politique français, pas moins que ça, oui oui. Certains y trouveront l'œuvre d'Emmanuel Macron, notre nouveau président, d'autres du machiavélique François Hollande et son cabinet noir, d'autres enfin diront que c'est juste un phénomène naturel, causé par plein de trucs, mais surtout pas Macron. Mais je pense que la cause importe peu puisqu'on a le résultat espéré par nombre de personnes depuis bien des années, la remise en cause du système rigide des partis politiques français. Le PS s'est pris un tollé spectaculaire qui a véritablement marqué sa fracture entre aile centriste et aile gauche, critiquée par son non-ralliement à Mélenchon. En Marche, ayant décidé de se concentrer sur un démarchage d'élus de la gauche anti-frondeur, le clivage se fait sentir de plus en plus pressant. C'est bien sûr sans parler de la lente et longue déchéance de Manuel Valls, ayant tout fait pour contrer Macron et qui maintenant se fait refuser de toutes parts. Dès le début, il était anti-Macron, ouvertement attaché au vainqueur de la primaire de la gauche, mais il demande maintenant une candidature avec l'étiquette d'En Marche, refusée donc, pour se faire une place tandis que le Parti Socialiste cherche à le virer de leur parti. Chez les Républicains, c'est à peu près la même chose, malgré un joli score au premier tour. L'UDI s'est rallié rapidement à Macron, tandis que les LR modérés glissent vers lui et que l'aile plus dure refuse toute compromission en assumant un revirement vers la droite conservatrice. Leur président, François Baroin, se dit prêt à collaborer avec En Marche en tant que chef d'un groupe LR uni et fort, indépendant donc. Le Front National, parti qui se présentait comme un anti-système mais qui n'a qu'un an de moins que le PS, rappelons-le, subit une fronde virulente à l'encontre de Marine, déchue au second tour, et son fidèle Philippot. L'annonce de Marion Maréchal Le Pen quittant la politique remet en cause toute succession pacifique, à tel point que Marine Le Pen n'exclut pas la fondation d'un nouveau parti. La France Insoumise, elle, refuse toute alliance avec le Parti communiste, ancien allié au sein du Front de gauche. Il semblerait d'ailleurs que le nouveau PS, à l'image de Hamon, soit compatible avec la France Insoumise ou pas, mais leur union semble compromis. Mélenchon s'est d'ailleurs immédiatement auto-investi comme opposition principale à Macron. On a donc tout qui bouge dans tous les sens et on dirait qu'En Marche va pouvoir se glisser dans les interstices et il est possible que notre nouveau président se retrouve avec une majorité parlementaire absolue, ou du moins une majorité proche. Le problème que cela pose est bien sûr à la fois d'ordre interne et d'ordre démocratique. Un seul parti avec la majorité absolue, c'est à la fois l'émanation de la volonté du peuple selon notre conception française de la démocratie représentative, avec ses limites bien sûr, car cela a vocation à réduire le débat et donner au gouvernement un poids très, voire trop important. Je dois bien vous avouer que malgré ma confiance en Macron et mon adhésion partielle à son projet, ça me fait peur d'avoir un bloc gentiment libéral dirigé. Sur le plan interne, je ne peux pas non plus m'empêcher de voir venir la scission au sein du groupe parlementaire En Marche d'ici quelques mois à peine. En même temps, la position que prennent tous les autres partis en réaction à la victoire d'Emmanuel Macron me conforte dans une idée. En France, l'ego prime toujours sur la volonté démocratique. En effet, Mélenchon se positionne dans l'opposition la plus farouche à Macron lui-même quand quelques semaines auparavant, il voulait une assemblée ouverte où les débats ont lieu. Baroin affirme être prêt à travailler avec En Marche, mais tant qu'il garde un parti unifié, c'est-à-dire qu'il votera de la même manière. Je ne vois pas du tout un parlement démocratique se dessiner. Et ce n'est pas la faute du système, désolé les insoumis, désolé les frontistes, mais c'est la faute des égaux, des actuels et futurs élus. Ce n'est pas la faute du système, mais des personnes mêmes, des personnes qui abusent du système ou qui le critiquent sans cesse, parfois même en cumulant les deux. Alors oui, bien sûr, on pourrait changer le système, mais alors les personnes resteront les mêmes. Ou alors on pourrait changer le système et les personnes, on pourrait détruire la professionnalisation de la politique en introduisant le tirage au sort, comme dans la Grèce antique ou dans les républiques italiennes. Avec tous les risques de mésinformation et d'ignorance sur des problématiques majeures que cela implique, surtout que l'on zappe totalement la légitimité démocratique. Ou alors on pourrait choisir de réduire le nombre de mandats des élus, on pourrait introduire de la proportionnelle partielle, on pourrait présenter 52% de candidats issus de la société civile n'ayant jamais eu de mandat électif. Il n'est jamais nécessaire de s'adonner à notre vice français du grand chamboulement parce qu'on est capricieux face au temps long de la politique. Notre histoire nous enseigne avant tout les grands bouleversements sans nous enseigner les années, voire les décennies entières de préparation en amont ou d'adoption en aval. Une institution à une échelle plus élevée que l'État peut jouer de ce temps long comme nous le montre l'évolution politique au sein de l'Union européenne, de l'Assemblée parlementaire devenue aujourd'hui Parlement européen. Depuis 1979, il est élu au suffrage universel direct où chaque État membre définit ses règles et c'est une des très rares élections françaises qui se fait à la proportionnelle totale. Il est donc une émanation bien plus représentative des courants politiques qui traversent la France que notre système des législatives. Ensuite, il s'est imposé petit à petit comme organe incontournable dans la mise en œuvre des politiques européennes à travers le droit de regard et de validation, mais aussi la procédure législative ordinaire. Mais ce qui est le plus étonnant au sein de ce Parlement, et la raison pour laquelle je veux en parler, c'est qu'en étudiant les débats, les votes et les positions des eurodéputés ou la composition des comités, on se rend compte qu'il y a une véritable mixité. Les partis ne votent que très peu d'un bloc et chaque député est véritablement libre de défendre ses opinions. De plus, ce sont à la fois des novices et des habitués de la politique, fournissant ainsi un juste équilibre entre technocrates et idéalistes formés sur le tas. Sur ce, nous sommes tranquilles pour encore quelques semaines avant de nous tourner vers l'étranger, ou en 2019, au plus tôt, pour les européennes.
Merci Pierre pour ce billet bien informé qui se termine sur une touche un petit peu amère. Mais après l'humeur, c'est au tour de Rémi de prendre le micro et de façon décalée avec son billet d'humour.
Ouais, bonjour, on va Rémi. Voir ce que ça va donner. Bonjour Maëlys.
Oh merde, deuxième fois, putain!
Bon alors là, grosse catastrophe de jingle. Alors je sais pas qui a fait cette palette, mais je pense que notre couple présidentiel est en cause.
Je te permets pas.
C'est extrêmement
sachant
mal.
Sachant que
mais
c'est toi qui as fait ta palette, Rémi.
Bref, peu importe. Bonjour chers auditeurs. Voilà, la première blague de ce billet d'humour, qui était la seule à peu près potable, vient de sauter. Je vous conseille de faire votre pause pipi précisément maintenant, parce qu'ensuite ça va être vraiment super bien. Bref, là Maëlys, tu me demandes comment ça va.
Comment ça va Rémi?
Bien mieux Maëlys. Le sursaut républicain, ça vous réveille un homme. Bon, vu que j'ai un lit mezzanine, ça m'a donné un sacré mal de crâne, vous voyez. Mais bon, le tintamarre va se calmer, tout s'est bien passé. Les appeleurs à voter Macron vont de nouveau s'en aller hiberner loin du vol silencieux des ordonnances. Tout va bien. Même notre président à nous, à l'ENS, va repartir fusionner des universités sans même un message de remerciement alors qu'on a suivi ses consignes sans broncher, comme les Français avaient suivi les consignes en d'autres temps aussi. Emmanuel Macron s'appelait alors la ligne Maginot, si vous voyez de quoi je parle. Enfin bon, bref, c'est bientôt l'été, tout va bien, on se calme. Après une saison de billets d'humeur cinglant, hilarant, touchant, intelligent, détergent, passionnant, je suis bien content de prendre des vacances quand même parce que vous êtes mignons à m'écouter, mais il y a un moment où j'ai besoin de mieux, par exemple moi-même, un petit peu de solitude, de tranquillité. Surtout qu'à vrai dire, je ne crois pas avoir eu assez d'impact pour faire changer les choses cette année, chers auditeurs, malgré toute ma verve. On peut se foutre d'eux autant qu'on veut, les politiques se foutront toujours de nous.
Vous avez choisi de m'accorder votre confiance.
Ouais, d'accord. Un peu comme, en fait, comme quand tu dis à la fille que tu as traînée dans ton lit « merci pour ta confiance » alors que tu l'as tirée par les cheveux, attachée, assommée, droguée, et que tu lui as demandé de choisir entre toi et le M1 Info à poils longs du fond de la festive. Bon, ouais.
À compter de ce soir, et pour les 5 années qui viennent, je vais... avec humilité, avec dévouement, avec détermination.
Vous ? Non, je ne le dis pas. On sait ce que tu vas faire, Manu. On a bien compris pourquoi tu tenais le pupitre à deux mains comme ça. Hein, on s'est préparé, nous aussi, qu'est-ce que tu crois ? Non, comme d'hab, hein, enfin bon, toujours les mêmes saloperies.
D'abord, je me souviens, donnez-moi des petits chocolats ou des machins.
Non, mais non, je veux pas que tu manges des saloperies.
Oh, bah merde.
Non, tu l'as dit.
Bon, alors d'accord, non. Donc, je vais prendre, donnez-moi de l'eau.
Ah oui, de l'eau, oui, tiens. Ah oui, pas de chocolat, hein, après il se gave, ça lui fait une diarrhée de tous les diables, il va encore falloir l'essuyer avec nos acquis sociaux, non, je dis non. À propos de diarrhée, l'autre Manu rampe toujours plus bactère, hein, à la recherche d'un ou deux bulletins de vote pour tenir l'hiver. Oui, désolé, mon vœu de début janvier n'est pas exaucé, Manu est encore là. Les communistes encore sont encore là, hein, Vincent Lambert, si tu nous écoutes. Mélenchon aussi, avec son beau charisme qui gonfle, à tel point que c'est pas une baleine qui va boucher le Vieux-Port, ça va finir par être son ego. Le centre est toujours de droite, rien de nouveau de ce côté-là. L'Union européenne fait encore plus de merde depuis que les Anglais ont décidé de faire la leur dans leur coin. Hashtag bœuf à la menthe, hashtag loi de la physique, on s'en fout. Tout ça pour dire que, grosso modo, je n'ai servi à rien, qu'il vaut peut-être mieux que je me taise maintenant tout de suite, et j'espère que finalement, ça se passera mieux à la rentrée à Transistor, où notre élection présidentielle nous attend aussi, et où on choisit les choses bien entre nous. Finalement, ça ne serait pas plus mal si on choisissait ça tout seul. Je m'imagine bien président de la République, comme le chantait un certain Gérard Lenormand à une époque.
Merci Rémi, et oui tu ferais un excellent président de la République et on aurait l'occasion de t'entendre un peu plus souvent.
Ça
c'est au
bien.
Tour de la grande et talentueuse voyante de Transistor qui a questionné les astres pour savoir de quoi votre mois sera fait. C'est l'heure de la vérité avec l'horoscope d'Anastasia. Bonjour à toi Anastasia.
Bonjour Mathias.
Dans mon horoscope, il y a des chômeurs. Dans mon horoscope, il y a des moches. Très moche. Dans mon horoscope, amour, ça dépend. Travail, ça dépend. Ça dépend des gens.
Ouf, Ouf, on est dans l'orage. Mémoire, stage, partiel, grec, tout ce qui nous accompagne à la fin de l'année. Je suis persuadée que tous nos auditeurs sont sages et travaillent comme des malades jour et nuit. Ils ne perdent aucune minute pour des activités inutiles. Afin de vous encourager, je vous présente ce mini horoscope de fin d'année. Bélier. Les étoiles savent que vous êtes chargé de boulot et exceptionnellement, merci les étoiles, la suite de Game of Thrones tombe en juillet et pas en mai. Profitez-en pour donner un dernier coup de cravache les loulous. Taureau, mai est à vos côtés tout le mois. Vous serez plus que jamais le brillant et vibrant feu follet de Zodiac, éclectique, curieux de tout, mobile, passant d'un sujet à l'autre avec une facilité déconcentrante, ultra communicant et connecté. Bref, on sent que la deadline du mémoire s'approche. Gémeaux, bientôt les vacances. Cancer, ne soyez pas aussi pressé que les Gémeaux, vous n'êtes pas encore en vacances. Pour pouvoir exposer votre corps cet été sur la plage, il faut encore suer sang et eau à la salle de sport ouverte 24 heures sur 24 à Manon et à Descartes. Avec l'abonnement spécial de la S, vous pouvez y accéder toute l'année. Lion, le lion, généreux, expansif et chaleureux, est à son zénith et en ce superbe mois de mai. Tout ou presque. Et voilà, bravo les lions. Vierge, c'est la semaine des traquenards. Laissez-vous emporter par le vent des aventures, peu importe le boulot. Que vous échouez à vos examens ou non, au moins vous allez passer une semaine de folie. Balance, professionnellement, beaucoup de choses devraient se débloquer à force de dialogue et de coopération. Ne lésinez pas sur la communication. Prenez votre bâton de pèlerin, expliquez et explicitez vos idées sans vous impatienter. Pour ceux qui ne comprennent toujours pas, à force d'embêter le bureau de stage pendant 2 semaines de suite, vous allez finir par remplir votre convention de stage. Scorpion, si vous êtes aussi beau que Ryan Gosling, vous avez de la chance. Vous pourrez charmer votre jury pendant la soutenance de votre thèse, ou bien simplement emmener un de membres du jury boire un verre à la cafette, ou lui jouer City of Stars dans la salle du piano à tes cartes. Sagittaire, que de chance les Sagittaires! Les étoiles vous sourient, votre carrière n'a jamais eu autant de succès. C'est la plus haute promotion de votre vie. Même si c'est un CDD pour 5 ans, une prolongation de la même durée est possible. Mais là, ça ne dépend que de vous. Au moins, il faut augmenter votre popularité par rapport à vos prédécesseurs. Bon courage, Emmanuel. Capricorne. Ah, Capricorne, au contraire des Sagittaires, votre karma est au plus bas. Mais vous faites face à l'adversité avec détermination. De grands changements sont à prévoir dans un avenir proche. Ne marinez pas dans votre coin, afin de ne pas tomber dans la dépression. Consacrez du temps pour vous-même, je ne sais pas, passez au spa, renouvelez votre garde-robe, inscrivez-vous sur Tinder. Verseau, une foule d'opportunités devraient s'offrir à vous ce mois-ci. Au travail, vos collègues associés ou concurrents vous titillent en vous demandant comment vous avancez dans vos révisions, vous mettant au défi de les suivre dans leurs projets. Ne vous inquiétez pas, les négatifs, bientôt c'est fini. Poisson, mangez beaucoup, mangez bien. Votre cerveau a besoin de glucides pour réussir les partiels. Peu importe que vous doublez le volume, vous pourrez rejoindre les cancers à la salle de sport à la fin de vos épreuves.
Effectivement, je crois que c'est un peu le mois du stress et des échéances, pour tout le monde. Hein, Mathias ? Et on a besoin de se raccrocher à son petit horoscope pour tenir bon. Merci Anastasia. On retrouve tout de suite Pierre qui vous a concocté un éphéméride aux petits oignons. Bonjour Pierre. Alors nous avions le choix dans la date à Transistor pour ce direct, mais nous avons choisi le 11 mai. Alors, quoi de spécial le 11 mai ?
L'oublié de Rémi, dans tous politiques, sur Transistor.
Dans tous politiques, sur Transistor.
Oh merde, deuxième fois, putain !
Eh bien, surprise, ce n'est pas Rémi, c'est encore moi, Pierre. Et oui, donc je ne vais pas...
Oh merde, deuxième fois, putain!
Et oui, 2 fois d'affilée, vous inquiétez pas, je suis encore là pour quelques temps pendant ce direct. Et donc, sans plus tarder, passons à l'éphéméride tout de suite. Nous sommes donc le jeudi 11 mai, pour ceux qui ne s'en étaient toujours pas rendus compte, qui était un lundi en 1987, lundi où s'ouvrait le procès de Klaus Barbie à Lyon. Le 11 mai, c'est aussi le jour où en 1960, Eichmann a été capturé à Buenos Aires par les agents du Mossad. Cette date semble donc bien néfaste pour les nazis. Toujours en lien plus ou moins direct avec la Seconde Guerre mondiale, le 11 mai 1943 marque le début de la reconquête américaine des îles Aléoutiennes, capturées par les Japonais. C'est un fait fort peu connu, voire pas du tout, mais je vous invite à vous y pencher. On a l'habitude de dire que les États-Unis n'ont jamais été envahis depuis la colonisation. Eh bien, il s'avère que c'est faux. Les Japonais ont capturé en juin 1942 un archipel d'îles au large de l'Alaska, que les troupes américaines ont dû reconquérir péniblement dans une campagne militaire fort peu médiatisée. Sur une note plus positive, le 11 mai 1910 est le jour où le Congrès américain a créé le parc national de Glacier dans le Montana, parc nommé réserve de biosphère et patrimoine mondial par l'UNESCO. Mais c'est aussi le jour de la fondation de Wikipédia français en 2001, sans qui cette liste n'aurait jamais pu être possible. Pardon, j'oubliais quand même l'aspect technique de cet éphéméride. Hein. Alors nous sommes au 131e jour de l'année, dans le 19e semaine, le soleil se levait à 6h14 et se couchera à 21h, soit un total de 14h46 d'ensoleillement, c'est 3 minutes de plus que hier. 14h46 d'ailleurs, ce ne sont pas moins de 886 minutes, ce qui vous laisse le temps amplement de faire 121 fois l'amour selon Doctissimo, regarder 9 films d'une durée moyenne ou de faire 7 fois le trajet Lyon-Paris en train ou 3 en voiture. Nous sommes en phase de pleine lune aujourd'hui. Et aujourd'hui nous fêtons d'ailleurs la Sainte-Estelle en l'honneur d'une jeune femme de la région de Sainte, une bien jolie coïncidence, qui se convertit à la vraie foi malgré la romanité prononcée de son père. Elle se refusa à tous les prétendants présentés par son paternel pour ne pas dévier de la foi, ce qui le poussa à la mettre à mort dans les arènes de Sainte. Il faut croire que les crises d'ados de l'époque étaient bien différentes de celles d'aujourd'hui. En tout cas, Sainte-Estelle nous a donné pour dicton du jour « Gare s'il gèle à la Sainte-Estelle ». Mais n'oublions pas non plus nos amis bretons qui fêtent pour leur part Saint-Tudy, dont on ne sait rien d'autre qu'il a existé et qu'il a vécu sur l'île de Groix. Et c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt mes chères Estelle, mes chères Stella et « Dewez matakenember tudi hatudig ».
Merci Pierre pour cet éphéméride placé sous une bonne étoile avec les Estelles et autres Stella Artois. En parlant des astres d'ailleurs, c'est l'heure du rendez-vous avec notre Madame Soleil à nous qui vous dit s'il faut encore sortir le caouet demain. Aurore, à toi l'antenne.
Ben, 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 je voudrais avancer l'été. Qu'il fasse avant la Saint-Jambon.
Jambon, jambon, jambon.
Qu'il fasse beau dès le 10 juin.
10 juin.
Ça serait bien s'il faisait beau d'aimer.
C'est beau d'aimer, beau d'aimer.
Et que cesse enfin cette pluie. Où est-il été, l'été wetty? Où est-il été, l'été wetty?
Salut, bande de losers. J'espère que vous allez tous mal et que vous êtes bien mouillés par les averses lyonnaises. J'en tirerai carrément davantage de plaisir. Moi qui suis fraîche comme la rosée, ensoleillée comme un mois de mai, que vous n'aurez pas, et détendue comme jamais. Oui, c'est bien la mer derrière moi. Ne m'en voulez pas. J'ai décidé de me barrer de notre cher territoire, la France, la Startup Nation France, dimanche dernier, et je me suis exilée à Palma de Mallorca. Les rageux vont ranger. Il fait 25 degrés, plein soleil, le sable est chaud, la mer est belle et les mojitos sont pas chers. Vous comprendrez aisément pourquoi je ne suis pas désolée de ne pas être là pour le dernier direct de l'année. Hein. Les tortillas et les hommes poilus n'attendent pas. Je me sentais appelée par l'ailleurs, enfin surtout par l'alcool pas cher. Faut dire que j'en avais bien besoin après une année aussi chargée. Tout aussi chargée que ce délicieux cocktail. Non mais vraiment, il est délicieux. Non, je fais mal l'allégresse. Hein. Bon, Pedro, coupe le son derrière, ça ne le fait pas. En vrai, je suis encore à la bibliothèque d'Hydro. Et si j'ai pas pu venir, c'est que je suis coincée sur une chaise de la salle concours, ayant l'impression d'attendre le jugement dernier, dans l'espoir d'une rédemption qui n'arrivera jamais, la fin du cauchemar de l'agrègue. Je voulais vous donner l'impression d'être une femme libre, émancipée, radieuse, une Madame Soleil comme on n'en fait pas. Mais en fait, je suis juste coincée sous une masse de livres. Le Gaffio, le dictionnaire Corominas de 12 kilos, le dictionnaire de Maria Moliner de minimum 8 kilos 42 grammes. Du coup, pour faire passer le temps, je regarde les offres EasyJet et Iberia au départ de Lyon. Bon, j'aimerais tous vous amener à Rome. Enfin, surtout pour Clément et sa stature impériale. Il s'intégrerait si bien au décor romain. On pourrait même le laisser sur le forum. Nous pourrions aussi partir au Brésil, descendre l'Amazone à la recherche d'or. Et je suis sûre que ça plaira à notre président, Mathias, aventurier littéraire plongé dans les récits de voyage. Ou alors dans une contrée encore plus exotique qui promet moule aventure, la Normandie. Le clan normand de Transistor ne me contredira pas. Nous n'irons pas à Paris. Oh non, certainement pas, c'est surfait et puis de toute façon il pleut. Demain, il fera 21 degrés, certes, mais avec des averses terribles. Enfin, je dis ça, mais on peut se plaindre tout autant du temps lyonnais. Demain, vendredi 12 mai, il fera 21 degrés, comme à Paris, et des averses, comme à Paris. Mais nous nous démarquons, comme toujours, et nous aurons en plus de l'orage. Waouh, trop hâte. Promis, je rends l'antenne. Je ne monopolise pas plus longtemps la parole, mais juste avant, j'aimerais vous dire à quel point j'ai aimé cette année de radio avec vous, chers auditeurs, chères auditrices, et avec vous, chère équipe de Transistor, camarades de radio et chers amis. Peu importe qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, vous êtes et resterez mes petits rayons de soleil. Allez, sur ces paroles dégoulinantes de bons sentiments, je vous dis à la saison prochaine. Je retourne pour le moment à mes livres.
Oh, bon. Ici la Normandie. Hein. Merci Aurore pour cette météo haute en couleurs à l'image de ton quotidien. Bon, voilà, c'était gratuit. La musique adoucit les mœurs, dit-on. Pour se détendre en ce début de soirée, après sa journée de travail harassante et après ce tourbillon d'actualité, quoi de mieux qu'un épisode de Sidetracks, votre rendez-vous musical incontournable. Bonjour Céline.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous.
Un pour l'argent, deux pour le spectacle, trois pour le game.
Classe, man, top of the pop. C'est du journalisme total.
Aujourd'hui dans Sidetracks, on commence par écouter quelques notes qui forcément nous disent tous quelque chose.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures.
Alors c'était bien évidemment Le temps de l'amour de Françoise Hardy, pour parler non pas de Françoise Hardy, mais de Junior avec un E, un groupe de filles aux tenues sages en noir avec col blanc, un groupe bien d'aujourd'hui cependant qui joue sur des échos, des reprises, des réinventions et des références. Junior, c'est tout d'abord Agnès Imbaud au clavier, Soigne Elzingre à la batterie et Anna Jean au chant. Sur scène, il y a aussi un fantôme vêtu d'un grand drap blanc, sous lequel se cache Samy Osta, le producteur du disque. L'univers de Junior, ce sont des histoires d'amour passagère, le temps d'une chanson, des actes manqués, des rendez-vous chez un marabout, souvenez-vous, j'en avais parlé dans un précédent épisode, et puis, sur ce tout premier album, pas moins de 14 titres enlevés. Son nom, Oulala.
Insatisfaite, caustique et volatile.
Ah, ok.
Des idées noires dans la tête, cynique, hostile.
Si j'ai ouvert cette chronique par Françoise Hardy, c'est qu'on retrouve chez Junior le même phrasé un brin mélancolique, la voix douce et monocorde, et ces histoires d'amour imaginaire qui, entre autres, ont bercé la musique des années 60. Une influence dont se revendique ouvertement le trio, avec dans leur panthéon imaginaire France Gall et toutes les muses de Serge Gainsbourg. Il y a aussi Christine Laume, Alice Donna et Jacqueline Taïeb, vous savez, celle qui se lève à 7h du matin dans la chanson.
Il est 7h du matin. Faut se réveiller, oh j'ai sommeil. Bon alors un peu de musique pour se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation.
La version revue et corrigée par Junior, ça donne ça.
Ah non, je me suis pas réveillée. Que je me dépêche de m'habiller. C'est mon réveil, c'est ça? Il a pas sonné. Pourtant, je suis sûre, cette fois, je l'ai pas oublié.
C'était En retard, en duo avec Joséphine Delabaume du groupe Think Tank. Les parallèles sont frappants, l'hommage évident. Oui, mais voilà, Junior n'est pas une simple copie, c'est aussi un groupe résolument féminin et féministe. Chez Junior, la journée commence mal parce que la figure au centre de la chanson a ses règles en retard. Et la panique est là.
Une semaine, deux semaines, trois. On est 18 aujourd'hui, c'est ça? Mais alors je devrais les avoir déjà. Ah non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Je suis en retard.
En retard?
En retard.
Est-ce que vraiment ça vous choque encore aujourd'hui de chanter sur pareil sujet? Eh bien Junior en tout cas s'en moque et passe déjà à une autre histoire. On trouve donc chez Junior des influences yéyé, donc, mais du yéyé noir auquel s'est ajouté des réverbérations de guitare et des mots implacables sur des chansons légères. Ce goût doux amer est présent dans chacune des ballades nerveuses, chantées en français s'il vous plaît, le tout orchestré par le grand touche-à-tout actuel de ce qu'il convient désormais d'appeler la nouvelle scène française, Samy Osta, également producteur de La Femme, Feu Chatterton et de Rover. Un mot de la pochette également, à dévorer des yeux, comme le dit l'une des chansons. Elle vient d'Anna Jean elle-même et elle dit quelque chose d'une nouvelle sainte trinité, auréolée d'un oulala au graphisme de films d'horreur. Avec Junior, en somme, on rêve et on s'invente des vies en cavale.
Des fois on dormirait debout et d'autres à l'horizontale.
L'album de Junior, Oulala, est sorti cette année sur le label Le Phonographe, cofondé par Anna Jean et Samy Oster. Vous pourrez retrouver les dates de la tournée du groupe sur le site de Transistor, laisser des commentaires et suivre Sidetracks sur Facebook. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro en musique sur Transistor.
Merci Céline, c'était en ce moment votre émission sur Transistor, une émission coordonnée par Mathias Soubise et Maëlys Barr. Un grand merci à tous nos chroniqueurs, Pierre, Rémi, Anastasia, Aurore et Céline. Et un grand merci à Marie et Rémi à la régie. À 19h, retrouvez Popsy-Turvy, le meilleur de la géopolitique et de la pop culture, réuni spécialement pour vous dans un cocktail détonnant. Mais tout de suite, Transhistorien vous donne rendez-vous avec l'histoire. Bonjour Marie et rebonjour Pierre.
Bonjour.
Bonjour.